ça part plus.
Ah bon ? Ah, donc il faut se mettre là, ouais.
Profitez-en, posez-lui des questions. Il a écrit deux livres qu'on a là en vente, mais c'est surtout aussi un compositeur, c'est quelqu'un qui connaît bien les choses d'un côté comme de l'autre, donc vous avez la bonne personne. Et puis il y a Pierre-Laurent Cassière, qui est celui qui a créé ces schizophones, là, ces sculptures que vous voyez derrière vous, et que vous allez mettre sur vos oreilles, et vous allez vous dans la cour pour aller vous désorienter. Et il a une autre installation dont il va vous parler et dont vous expérimenterez aussi les sensations. Voilà. Alors moi je m'arrête là et je vous laisse entre les mains de Jean-Yves. Ben c'est comme vous voulez, il y a des chaises, on peut se mettre sur les chaises.
Parce que là j'ai ce micro là.
C'est-à-dire que moi je pouvais faire une petite introduction sur les rapports musical-plastiques, si vous voulez, puis après on peut visiter l'exposition de Jacques, et puis ensuite avec...
Si chacun prend une chaise et la pose.
Ah, en fait, ils vont revenir là-bas.
On peut s'asseoir par terre.
Ouais, on peut
s'asseoir
par terre.
C'est pas ça.
Honnêtement,
simple.
Alors,
voilà. Le CF
oui, je connais très bien.
Et nous avons déjà beaucoup travaillé ensemble.
Mais oui, oh là là, ça fait il y a
Donc c'est étudiant de première année qui
prépare pour le diplôme. Je connais ça par cœur, j'ai travaillé avec le CF. Donc il y a à peu près cette
jeune fille. Oui, qui est deux.
Avec un gros billet.
Putain, il faut vraiment qu'il parle dedans si on veut.
Je pense que je
tu peux pas augmenter plus.
Alors, oui, j'ai oublié une personne aussi, je suis désolée. On a la chance d'avoir Jacques Couchet ici présent, mais comme c'est quelqu'un de très discret qui ne veut pas parler. Et sa présence est indispensable. Donc il nous fait l'honneur d'être là.
Non, pas le moment. C'est un petit peu.
Voilà.
Donc je vais vous faire un petit topo, si vous voulez, très très général, un peu schématique, mais sur les relations musique art plastique au XXe siècle, et donc pour arriver au XXIe. Et puis donc, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je me suis rendu compte que la plupart des peintres avaient vraiment une relation très très intense avec la musique, ce qui n'est pas forcément le vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire que finalement les musiciens sont plus repliés sur leur monde, et évidemment, hormis Satie, Debussy, puis même Messiaen dans une certaine mesure, qui avait toute une approche de la couleur extrêmement forte, c'est vrai que c'est plutôt les peintres qui ont trouvé dans la musique des enseignements, notamment les peintres qui ont accédé à l'abstraction, qui ont trouvé dans la musique des modèles structurels, des modèles de pensée extrêmement importants. Alors, quand j'ai commencé donc à travailler sur le sujet, je me suis rendu compte que la plupart des peintres avaient eu cet intérêt, et donc j'ai essayé quand même de trouver quelques grands axes. J'en ai défini, mais encore une fois, il ne faut pas voir ça comme des définitions systématiques et dogmatiques, mais j'en ai trouvé cinq, les principales. C'est d'une part les peintres qui ont cherché des équivalences sensorielles, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il existe des correspondances entre couleurs et timbres, ou couleurs et intervalles harmoniques, ou des choses comme ça. Alors, les grandes prémices de cela, ça a été Scriabine. Vous devez certainement savoir que Scriabine a fait des poèmes symphoniques, par exemple Prométhée, dans lesquels il y a un orgue de couleurs qui était vous devez projeter des couleurs. C'est dans la partition, vous avez une ligne en bas de la partition avec les couleurs qui devaient être projetées simultanément à l'exécution de la pièce. Et donc ensuite, si vous voulez, c'est plutôt des peintres qui ont pris le relais, et c'est essentiellement les artistes du groupe du Blaureiter dans les années 10-13, avec notamment bien sûr Kandinsky. Kandinsky et Franz Marc, qui sont les créateurs du mouvement du Blaureiter. Alors Kandinsky, là, je vous renvoie à ses écrits, parce que je vous dis, là, je vais faire vraiment une introduction extrêmement rapide, du spirituel dans l'art, point, ligne, plan, regard sur le passé, etc., où il donne toutes sortes d'indices, entre, par exemple, entre les couleurs et les timbres, quelquefois les registres instrumentaux. D'ailleurs, d'un livre à l'autre, quelquefois, ils divergent, parce qu'en fait, tout ça était du ressenti, mais il n'y a rien de réellement défini une fois pour toutes dans ces propositions. Et puis il y a aussi un compositeur extrêmement important à ce moment-là qui dialogue avec Kandinsky, c'est Schoenberg. Et donc là, il y a une correspondance que je vous conseille évidemment de lire, qui est absolument passionnante entre les deux. Et tous deux avaient cette sensation que tout dans l'univers est vibration. Ça peut être des vibrations colorées, ça peut être des vibrations sonores, mais en fait, tout est déterminé par la notion de vibration. Alors, ensuite, si vous voulez, cet héritage-là va se poursuivre avec un groupe qui s'appelle le groupe des musicalistes, notamment, avec Henri Valenzi, Charles Blangatti, etc. Charles Blangatti a été un des premiers à faire des sortes de projections lumineuses en rapport avec des œuvres de Messiaen, c'était un ami de Messiaen, donc il y aura là des correspondances intéressantes. Alors tous ces gens-là ont mis l'accent sur un phénomène extrêmement important, et c'est très important pour l'expo de Jacques Pourchet ici, c'est que l'aspect temporel est fondamental dans la perception de l'œuvre plastique. Kandinsky s'en était aperçu, il le dit clairement, lorsqu'il avait vu les eaux fortes de... Plutôt le clair-obscur chez Rembrandt, c'est ça qu'il avait frappé, il s'était dit, là, il y a vraiment l'insertion concrète du temps dans la peinture. Et donc, tous ces peintres-là ont beaucoup mis l'accent, outre sur ces correspondances couleurs, harmonie, couleurs, timbres, etc. Ils ont beaucoup mis l'accent sur cet aspect-là. Alors, le deuxième axe, puisque là, il faut que je sois extrêmement rapide, c'est la question du rythme, qui est un phénomène absolument central et qui dépasse de loin les sortes de métaphores que l'on peut trouver entre son et couleur. Le rythme, c'est un phénomène qui est omniprésent, quelle que soit la discipline dans laquelle vous travaillez. Et là, j'ai une phrase de Paul Klee, pour moi, qui est absolument fondamentale. Paul Klee dit « Un rythme, cela se voit, cela s'entend, cela se sent dans les muscles. » Alors ça, c'est une phrase absolument géniale, parce que s'il en était resté aux deux premiers termes, on était encore dans la dualité temps-espace. Mais en introduisant l'aspect musculaire, ça, c'est absolument imparable. C'est-à-dire que vous soyez danseur, que vous soyez instrumentiste, que vous soyez peintre, de toute façon, votre activité passe par une sorte d'énergie musculaire. Et donc, vous trouverez, par exemple, les artistes correspondant à cet axe-là, c'est plutôt des artistes qui sont orientés dans le sens de l'abstraction, comme Delaunay, Sonia et Robert, comme Kubka, mais il y a aussi des artistes comme Matisse ou Fernand Léger, qui ont beaucoup tiré parti de cette question du rythme. Et alors, évidemment, ça se prolongera plus tard avec des artistes beaucoup plus près de nous historiquement, comme Jackson Pollock, avec son action painting et ses dripping. On dit que Pollock, par exemple, alors il ne faisait pas de correspondance stricte entre une musique et sa peinture, bien que, bon, c'était un passionné de jazz, mais enfin, il n'y a pas une correspondance, mais sa veuve raconte qu'il... Il peignait pendant des jours et des nuits d'affilée, toujours baigné dans la musique, sans manger, en buvant peut-être un peu, ça je pense qu'on peut imaginer, mais donc voilà, donc il était plongé dans la musique et dans l'énergie du son. Donc ça, ce serait, si vous voulez, cette deuxième catégorie, donc le rythme entre temps et espace. Et la troisième catégorie, ce serait les correspondances structurelles, c'est-à-dire qu'en fait, les peintres, surtout les peintres de l'abstraction, ont cherché des modèles très rigoureux qui pourraient éventuellement être transférés du visuel au sonore. Par exemple, un des modèles qui les a fascinés, c'est la fugue. Et donc on trouve des fugues de Kandinsky, de Klee, de Kubka, de Albers, etc. C'est-à-dire, comment ça se passe, par exemple, certains principes de... le principe du sujet, du contre-sujet, des strates ou développement, etc. Est-ce qu'on peut imaginer avoir un vocabulaire plastique qui rende compte de cela? Et ça, par exemple, ça a été très très bien analysé par Clé, qui affirme bien qu'il faut faire être très prudent, c'est-à-dire qu'une œuvre plastique ne se lit pas de gauche à droite, de haut en bas, alors qu'une œuvre musicale, évidemment, n'échappe pas à la linéarité du temps, même si la mémoire ensuite peut agir. Mais bon, on est quand même porté d'un début à une fin. Dans l'œuvre plastique, les mouvements sont multiples, et donc, dans la perception, on peut allègrement sauter d'un endroit à un autre. Mais on peut quand même structurellement baser une œuvre sur ces constructions très très fortes, notamment dans lesquelles Bach s'est particulièrement illustré. Donc on va trouver chez les peintres une double référence, c'est-à-dire moi qui m'a toujours un peu fasciné, c'est d'une part la fugue et Bach, et d'autre part le jazz. Ce qui peut paraître curieux, mais en fait le jazz pour eux c'est la spontanéité, c'est la décharge d'énergie, et donc c'est complémentaire. Donc ça, ce serait... Alors cette catégorie-là, c'est donc, des correspondances structurelles clés, s'il est beaucoup illustré. Notamment, il a cherché pendant très longtemps des correspondances entre le phénomène de la polyphonie et ce qu'on peut faire au niveau des arts plastiques. C'est-à-dire, par exemple, en jouant sur des effets de transparence, c'est-à-dire en donnant l'impression qu'il y a plusieurs voix qui se superposent, mais sans s'oblitérer, comme il dit dans la grande polyphonie de la Renaissance. Et puis Mondrian aussi a été tout à fait déterminant dans cet axe-là, dans la mesure où, donc, comme vous le savez sans doute, il a donné naissance à un courant qui s'appelle le néoplasticisme, et qu'il a essayé de trouver une musique qui pourrait correspondre à ses ambitions. Une musique qui ne serait pas basée sur l'omniprésence de la mélodie et de l'harmonie, mais qui serait basée plutôt sur l'énergie et éventuellement sur des sons non instrumentaux. Donc il annonce les premières recherches électroniques. C'est-à-dire que lorsque l'on dit que Mondrian a vraiment imaginé une musique du néoplasticisme, il l'a décrit, mais même s'il ne l'a jamais réalisé, et on a l'impression d'entendre du Stockhausen des années 50. Quoi. C'est-à-dire que 30 ans avant, il a imaginé cette sorte de... Il a même imaginé des lieux pour écouter cette musique. Donc c'est très, très impressionnant. Et puis après, bon, par exemple, le sérialisme a aussi beaucoup marqué les artistes, notamment du Bauhaus. Et puis donc là, on va trouver des artistes comme Albers, comme Max Biehl, etc., qui vont reprendre certains principes du sérialisme de Schoenberg et de Weber, qui vont le reprendre à leur compte dans les arts plastiques. Alors, le quatrième axe, ce serait, je dirais, la musique comme théâtre du visuel. Parce que la musique, ce n'est pas simplement quelque chose que vous écoutez les yeux fermés, c'est aussi un phénomène que vous percevez visuellement, c'est toute une relation entre les individus. Alors ça, évidemment, c'est un domaine qui a été exploré depuis l'Antiquité. On a des représentations d'instruments, d'instrumentistes, etc. La lutherie a beaucoup stimulé les peintres de toute époque, mais c'est particulièrement fort à partir, par exemple, du cubisme, où là, on peut vraiment repérer chez les grands peintres du cubisme une approche toujours différente de la musique, c'est-à-dire que ce soit Braque, Picasso, il n'y a pas du tout le même type d'approche, la même manière d'intégrer par exemple des éléments de partition, de notation chez Picasso, chose comme ça, le collage, et ça se poursuivra évidemment jusqu'à nos jours puisque on a des peintres qui se sont fait fort de représenter visuellement la qualité qui ressortait pour eux du rock, du jazz, etc. Je pense à Andy Warhol et Velvet Underground, par exemple, la manière dont il a... Et il y a eu beaucoup d'échanges avec des musiciens à cet égard. On sait, par exemple, que Andy Warhol a demandé à plusieurs reprises, enfin plutôt les Rolling Stones ont demandé à plusieurs reprises à Andy Warhol de charger de la pochette des disques, etc. Enfin, il y a eu tout un échange extrêmement fertile, c'est-à-dire que là, l'aspect visuel entretient complètement, cerne aussi à sa manière le phénomène musical. Le cinquième axe, et là on va être très proche de notre ami Cassière, Donc là, si vous voulez, c'est à partir du moment où il y a vraiment des interactions tout à fait effectives, c'est-à-dire où il n'y a plus seulement une espèce de distance qui est maintenue malgré tout entre un peintre et un musicien, mais où il y a des échanges, c'est-à-dire où par exemple certains peintres décident de changer d'instrument, pour reprendre l'expression de Kandinsky, c'est-à-dire de se mettre à composer, à proposer des phénomènes musicaux. C'est le cas par exemple de tout à fait au début des années 60, de Yves Klein, qui compose sa symphonie monotone pour les anthropométries, c'est-à-dire pour les performances de femmes qu'il faisait enduire de peinture bleue et ensuite se rouler sur des toiles. Et donc il y avait une musique qui jalonnait, enfin qui sous-tendait cette action, un grand accord, puis ensuite un silence, puis de nouveau un grand accord. Et donc Klein a conçu cette musique monotone, symphonie monotone. Puis Dubuffet, c'est Jean Dubuffet, a fait des expériences musicales avec un autre peintre qui est un des grands pionniers du groupe Cobra, Sergio Rior. Et donc, il s'est mis à improviser avec tous les objets qu'il avait à sa disposition. Il en a rassemblé aussi, le frère de Maurice Bion en a prêté plein. Et donc, ils se sont mis à enregistrer, à faire des mixages improbables, très très artisanaux, parce qu'il avait très peu de moyens à sa disposition, qu'il n'était pas du tout en courant avec. Enfin, il n'était pas du tout au courant des techniques électroacoustiques de l'époque, il n'était pas en relation avec Schaeffer et son équipe. Donc il a fait ça en bricolant, seulement du bricolage. Pourquoi, on n'a jamais su très très bien, mais en tout cas, il y a des enregistrements qui existent. Je vous invite à les écouter, ils ne sont pas forcément facilement trouvables. Enfin, voilà, donc Dubuffet, lui aussi, s'est collé à ce phénomène. Et puis alors, si vous voulez, ce qui va être plus important peut-être encore que ces initiatives individuelles, c'est que un certain nombre d'artistes vont prendre conscience de l'aspect sonore qui peut émaner de certains de leurs objets ou de leurs sculptures. Donc ça va arriver comme ça jusqu'à la sculpture sonore. Alors parmi les pionniers, ça a été Jean Tinguely, ça a été Takis, et puis ensuite ça va beaucoup se ramifier. Aujourd'hui c'est une dimension artistique à part entière, qu'on appelle le sound art, qu'on appelle aussi le Klangkunst en Allemagne, c'est-à-dire qui tient de l'installation. Et donc, Pierre-Laurent Cassière fait partie, si on peut dire, enfin, si je ne veux pas m'avancer trop, mais enfin, il s'inscrit un peu dans cet horizon-là qui, aujourd'hui, fait que certaines œuvres ne sont plus des correspondances entre le son et l'image ou l'objet, mais que c'est complètement intriqué. On ne peut plus séparer les deux phénomènes. Ça, c'est vraiment très rapide ce que je vous ai dit là, mais peut-être que si vous avez... Alors, maintenant, je vais vous montrer l'exposition de Jacques, et puis ensuite, ce sera Pierre-Laurent qui évoquera un peu son travail. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques questions. Je vous dis, j'étais extrêmement rapide, le plus rapide possible. Est-ce que vous avez des questions ?
On a une pièce hier dans le concert qui s'appuyait sur l'œuvre de Wolfli.
Wolfli, oui, tout à fait.
Et donc, quelles étaient ses relations avec la musique ?
Oui, c'est très compliqué parce qu'en fait, Wolfli était un individu qui n'avait pas forcément toute sa raison, au moins qu'on puisse dire. Donc, en fait, il paraît qu'il jouait d'une espèce de petite trompinette en carton. Il jouait ses partitions, mais alors, qui sont pratiquement illisibles, c'est-à-dire elles sont très très belles, mais bon, c'est ça des œuvres de, malheureusement, il faut bien dire, d'un fou, et donc, d'un illuminé en tout cas, et donc les partitions ne sont pas vraiment lisibles, c'est-à-dire c'est des portées à 6 lignes, je crois, ou 7 lignes, on ne sait pas très bien ce qu'ils voulaient faire avec ça, donc ça a donné à Pergis, ça avait servi pour délirer un peu, ce qui est très très bien d'ailleurs, autour de les Wolfli est un cas tout à fait à part. Mais c'est vrai que la notation a beaucoup attiré, alors pas seulement Wolfli, mais beaucoup de peintres ont été attirés par l'aspect visuel. J'ai parlé des cubistes, par exemple, qui intègrent des fragments de partitions dans leur collage. Mais plus tard, par exemple, on peut aussi le constater chez Motherwell, le peintre Motherwell, qui disait que ça l'intéressait d'inclure des morceaux de partitions dans ses œuvres, parce que justement, il ne lisait pas la musique. Alors, il disait, pour moi, c'est très mystérieux. Et donc, c'est un peu intéressant, c'est comme une espèce de fenêtre que j'ouvre sur un domaine qui n'est absolument pas familier. Donc, c'est un petit peu... La notation a pu devenir presque proliférante à partir de, alors c'est bien après Wolfli, mais à partir des années 50 où un certain nombre de compositeurs ont utilisé des notations graphiques, c'est-à-dire des notations qui ne sont plus uniquement fonctionnelles mais qui sont des stimulants pour l'interprète. Donc ça c'est venu un peu de l'école de New York, c'est venu de John Cage qui est quelqu'un de fondamental, ce que je peux dire, malheureusement je dis si je devais faire, si je devais parler de Cage, je prendrais toute la durée de cette intervention. Donc Cage est fondamental parce que c'est vraiment une personnalité qui est à la fois un très grand poète, un compositeur, ça on sait, mais aussi qui a une œuvre plastique extrêmement importante à partir des années 70. Et il ne cherchait pas de correspondance nécessairement entre les différents aspects de sa création. Donc la notation a été un phénomène très important et ça a amené certains peintres d'ailleurs à réaliser des partitions graphiques eux-mêmes. Je pense à l'anglais Tom Phillips par exemple, ou bien au tchèque Milan Griga, parce qu'ils se sont dit que là, puisque la notation c'était pas seulement un ordre qui était adressé par le compositeur à l'interprète, il y avait certainement moyen là pour eux de jouer sur deux aspects, sur la partition en tant qu'œuvre graphique à part entière, puis aussi en tant que processus destiné à être joué. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui.
C'est par rapport à la notion de rythme donc en musique, et vous avez parlé du visuel. Et j'avoue, moi, ça reste quelque chose de
Qu'on
soit pas forcément peut-être le geste, ou c'est quelque chose qu'on peut voir
sur
la...
Oui, c'est le geste, évidemment, c'est le geste, mais c'est aussi une proportion. Par exemple, au cours des années 20, s'est créé un groupe qui s'appelait le groupe de la section d'or, avec Kupka, Delaunay, Jacques Billon, et qui cherchait justement cet équilibre. C'est-à-dire que la section d'or, vous êtes musicien, vous savez très bien que Haydn l'a utilisé, mais plus près de nous, Bartok, Xenakis, Stockhausen, etc. C'est-à-dire les proportions correspondent en fait harmoniquement à des choses très fortes. Et ce sont les mêmes proportions que l'on trouve, d'ailleurs, il y a eu, bon là je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais par exemple, on a constaté que dans certaines abbayes, donc là ça nous ramène au Moyen-Âge, il y avait les mêmes proportions, par exemple, entre les colonnes qu'entre les notes d'un mode qui était supposé être... Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, cet aspect rythmique. C'est-à-dire la proportion de 2 sur 3, sur 4, hein, avec les nombres élémentaires. Est-ce que c'est plus clair là?
C'est ce qu'a utilisé aussi Le Corbusier quand il a participé à la construction du couvent des Tourettes.
Oui, c'est ça.
Très près de Lyon. Là. On est passé juste à côté en venant près de l'autoroute.
Auquel d'ailleurs aussi a participé Xenakis. Donc vous voyez, il y a toute une espèce de convergence évidente là.
C'est ce qu'on appelle le nombre d'or ou...
Oui, c'est le nombre d'or. 1, 16,
je sais pas. 618.
C'est le nombre d'or, section d'or.
Les suites de Fibonacci.
Voilà. 1, 2, 3.
Oui, voilà.
1, ouais. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Voilà. Je m'arrête là. Donc, qui sont très très fortes, mais dans un art comme dans un autre. D'ailleurs, il y a un livre de Guica, qui est consacré au nombre d'or dans tous les arts, c'est-à-dire aussi bien dans la métrique poétique que dans l'architecture, que dans la plastique, dans la musique, évidemment. Donc ça, c'est le rythme. Il y avait une autre question, quelque part. Oui.
Est-ce qu'il y a des artistes aujourd'hui qui s'intéressent aux recherches sur le cerveau et la perception des sens, justement?
Ah bah oui, on en a un ici.
Sans poser très loin, mais pour ma part, en tout cas, je m'intéresse un peu à la psychoacoustique, mais après je ne pose pas très loin sur les questions psychologiques, etc. J'aborde juste jusque là où je comprends. Je comprends plus, j'arrive. Mais oui, il y a des musiciens et des artistes qui travaillent bien sûr là-dessus. Dont je suis en train de chercher le nom qui va venir tout à l'heure. Mais qui a travaillé, qui a fait des pièces sonores, notamment une qui s'appelle Tinnitus. Donc Tinnitus en anglais c'est le acouphène. Et il a fait tout un dispositif sonore qui joue sur des... En fait il essaie d'activer les cellules cilées au fond de l'oreille. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez un peu le fonctionnement de l'oreille interne. Mais, enfin le, donc dans la cochlée, il y a des, ce qu'on appelle les cellules ciliées. Et donc c'est des cellules avec des cils, enfin des poils, qui sont baignés dans un liquide, mais qui s'excitent selon certaines fréquences. Et qui ont des proportions données, qui donc sont animées par certaines longueurs d'onde. Et lui, il a essayé de calculer et de travailler assez précisément sur justement voilà, vraiment le fond du fond de l'oreille. Quoi. Donc de produire une pièce sonore qui, en plus, quand elle nécessite une certaine installation, ceci dit, c'est disposé en spirale dans l'espace. Donc ça, je ne sais pas si c'est vraiment important au niveau de la perception ou si c'est juste pour une espèce de mise en scène finalement du dispositif. Et donc ce serait une mise en scène esthétique et plastique. Plus que physiologique, mais en tout cas, il a travaillé sur assez précisément sur la relation propre entre le cerveau et l'oreille. Mais il y a, enfin après, il y a aussi bon, tout ce qui touche aux illusions psychoacoustiques. Quoi. Voilà, les gammes de Shepard, par exemple. C'est un peu daté maintenant, mais je crois que c'est Jean-Claude Risset qui a bossé là-dessus. Donc sur des illusions de sons qui montent tout le temps ou qui descendent tout le temps, qui sont en fait, c'est la même chose que de regarder tourner une spirale, ou de regarder un tire-bouchon qui tourne, parce qu'on a l'impression qu'il y a un mouvement qui se déplace et qui ne s'arrête jamais. On peut produire le même genre d'illusion pour l'oreille. Ce qui crée en général des troubles aussi perceptifs qui peuvent être assez désagréables, parce qu'on est souvent dans une situation où on a l'impression de descendre tout le temps ou de monter tout le temps. Selon dans quelle situation on les écoute, comment physiologiquement on est placé. Il y a rien, j'ai plus son nom, un artiste allemand il y a quelques années qui avait proposé un waterbed, donc un lit gonflé à l'eau. Et on écoutait sur un waterbed, plus on écoutait ça au casque ou sur des gros parleurs diffusés, un son comme ça, une gamme de Shepard descendante. Donc l'idée était un peu de faire une espèce de pseudo caisson d'isolation sensorielle où on ne sentait plus trop où on était, et puis on écoutait ce son de descendre tout le temps, donc on perdait un peu ça sortait un peu de son corps. Garder un peu l'aspect, enfin notre poids, on faisait un peu abstraction de notre propre poids.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ben je vais, avant de redonner la parole à Pierre-Laurent, on va faire un petit tour de l'exposition de Jacques Porcher, assez rapide, puisque malheureusement vous n'avez pas un temps fou. Donc on va vous montrer un petit peu là. Donc le travail de Jacques, alors Jacques Porcher, qui n'aime pas parler, c'est pour ça que je parlais pour lui. Quelqu'un qui a été depuis très longtemps très fasciné par toutes sortes de musiques, notamment les musiques contemporaines, c'est un amateur de ce genre, mais disons qu'il a fait des cycles de pièces en rapport avec des compositeurs, mais pas d'une manière systématique. Ils n'ont jamais cherché à trouver exactement quelle était la relation entre tel son et telle forme ou telle couleur. Mais donc il a fait des cycles de Cage, de Feldman, de Chelsea, de Gérard Griset, de Nono, etc. Enfin, donc pas mal de compositeurs. Il a beaucoup travaillé aussi sur la vibration sonore, et encore une fois, alors là, peut-être indépendamment de toute référence à une musique en particulier. Ça, là, c'est par exemple, alors ça, ce sont des œuvres qui sont en rapport plutôt avec une musique traditionnelle de l'Inde, les ragas. Je crois que ça, c'est aussi le raga. Oui, c'est ça. Et donc, là, si vous voulez, ce qui est. Il joue beaucoup sur l'apparition et la disparition. Hein, donc, sur le silence, sur la résonance. Ici, en fait, c'est un papier népalais, ce papier sur lequel il a travaillé. Mais on ne peut pas peindre sur ce papier, qui est un papier huilé. Donc, en fait, les formes que vous voyez là, et qui sont comme une espèce d'apparition de. Peut-être comme l'apparition d'un son, il les peint sur un papier, comme c'est un papier arche, comme celui que vous allez voir ici, et ensuite, donc, le papier népalais vient comme une espèce de en transparence, pratiquement, de cette forme. Donc, là c'est pareil. Donc, vous voyez, on distingue à peine, il faut vraiment. C'est des œuvres, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, le temps est extrêmement important. Là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des œuvres vraiment. Par rapport à qui invite à la méditation, à la concentration, et vous allez voir si vous vraiment si vous restez un bout de temps, qu'éventuellement vous voyez même selon différents éclairages, vous allez voir apparaître toutes sortes de formes, mais c'est souvent très évanescent, très 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 fugitif. Alors là, par exemple, c'est une œuvre en rapport avec l'œuvre de Charlemagne Palestine, et en fait, ce sont ces 10 000 petits carrés. 100 fois 100, dont certains ressortent très légèrement. Vous voyez, c'est pour vraiment regarder de très très près pour voir l'émergence, pour voir apparaître.
On va attendre ça avec vous.
C'est vraiment comme c'est des œuvres à interpréter. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, si vous passez devant comme ça, vous loupez tout. Il faut vraiment regarder de très près, et à ce moment-là, vous allez avoir des itinéraires qui vont se créer. Mais ça ne peut se faire avec beaucoup d'attention. Donc c'est des œuvres de méditation. Bon, on va continuer. Donc, vous aurez la possibilité de revenir à l'esprit. Il y a un jeu de surpeuille, si c'est bien pour ça quand même. C'est-à-dire qu'en fait, le blanc que vous voyez là, c'est le blanc du papier. Et en réalité, Jacques Fourchet a tracé des lignes avec des crayons de différentes qualités. Plus ou moins durs, plus ou moins tendres, c'est plus gras. Et donc, c'est le blanc n'est pas surajouté, il est en creux. Vous en avez, là, vous en avez trois, par exemple. Donc, vous avez ces qualités de gris. C'est-à-dire, c'est une manière pour Jacques Fourchet de jouer sur le timbre. C'est vraiment comme de jouer sur le timbre instrumental. Alors, souvent, d'ailleurs, dans les œuvres que vous allez voir, là, c'est comme un triptyque. Il y a une espèce de jeu de disparition progressif, c'est-à-dire que par exemple, celui-là est beaucoup plus contrasté, celui-là tend à une sorte d'effacement, à s'estomper, si vous voulez, quelque part. Alors là ça, c'est une œuvre en rapport avec Giacinto Telsi, qu'affectionne tout particulièrement Jacques Fourchet. Alors, comme je pense que vous allez tous venir, j'espère bien, ce soir au concert de Joël Léandre, vous entendrez une œuvre de Telsi, qui était un compositeur très très spirituel, et donc qui avait un peu comme figure emblématique le cercle. Et là, vous avez trois cercles, en fait. Vous voyez, donc là, le premier, d'ailleurs, qui marque une espèce de rupture au niveau du passage entre les petits rectangles et les carrés. Puis vous avez un second cercle, et puis un troisième qui est à peine, vous voyez, qui se voit à peine. Là aussi, il faut vraiment rentrer dedans. Mais aussi, il est délimité par une espèce de légère rupture au niveau des rectangles. Voilà, donc ça, c'est par rapport à une œuvre de Luigi Nono, qui est lui-même, l'œuvre de Luigi Nono est en rapport avec Hölderlin. Et Luigi Nono avait inscrit une phrase de Hölderlin pour que les musiciens s'en imprègnent. Et c'est à Diotima. Et là, en fait, les petits carrés, enfin, si on arrive vraiment à les distinguer, mais je vous dis, c'est très très difficile, il y a les lettres de Diotima qui s'inscrivent là.
Et les carrés sont en volume
ou c'est... Ah non, c'est la couleur. Ah, oui. Non, c'est pas du tout en volume.
C'est
ben oui, c'est mais ça. Ben oui, je vous dis, il y a un effet de trompe-l'œil assez extraordinaire. Moi-même, je me suis laissé... Je connaissais pas, c'est les toutes dernières œuvres de Fourchet, et je me suis laissé avoir. C'est-à-dire qu'après, il m'a dit, non, il y a... En fait, c'est le papier qu'on voit, le blanc, mais il n'y a pas de rajout de blanc. Je m'étais moi-même...
C'est
blanc. Oui, c'est ça.
Un pochoir.
Là encore, vous voyez ce jeu de cercle, mais qui est encore moins affirmé que dans celui-là, puisque là en fait. Alors, là, ça, c'est deux œuvres en rapport avec Eliane Radigue, qui est une compositrice. Elle a aussi beaucoup travaillé sur des environnements sonores, avec des œuvres électroacoustiques. Et là, c'est comme une espèce de polyphonie de textures. Hein. En fait, on a plusieurs textures qui se superposent, un peu comme dans une espèce de. Dans certaines partitions de Ligeti, où on a une intrication extrêmement serré de voix instrumentale. Alors ça, c'est la suite Raga. Ça fait partie de ces œuvres en rapport à... On a comme des notes comme ça, comme si aussi l'instrumentiste s'accordait. Et on a des notes qui viennent émerger d'un relatif silence. Et c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que ces formes sont derrière. Là, ce sont encore donc, ces phénomènes de vibration.
Je...
Là, on a ce